Et tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Maëlys Bessery, bonjour à toutes et à tous. Avec son projet de loi pour une économie circulaire présenté depuis ce matin, le gouvernement décrète la guerre au gaspillage et mise sur le recyclage ou comment en finir avec le schéma produire pour détruire. François de Rugy, mis en cause par le site d'investigation Mediapart pour des dîners privés fastueux dans la résidence du président de l'Assemblée nationale, poste qu'il occupait à l'époque des faits dits assumés, tout en invoquant un travail de représentation. Et puis la France a reconnu ce matin que des missiles américains retrouvés dans un camp de combattants du maréchal Haftar en Libye appartenaient bien à ses forces armées. Une révélation embarrassante pour Paris, accusé par les forces gouvernementales de Tripoli de jouer un double jeu. Et puis à 12h45, Maëlys, ce sera la grande table d'été.
Nous allons parler de l'avortement remis en cause dans de nombreux pays et mis en récit par la bande dessinée d'eau de Mermilio avant de faire le portrait de Charlie Couture.
Merci, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Vous allez voir ce que vous allez voir, aurait dit un certain Jacques. Interdiction du plastique à usage unique dès 2020, 100% de plastique recyclé en 2025, élargissement du principe pollueur-payeur, mise en place d'un bonus-malus pour avantager les produits les plus vertueux en réduisant leur prix. Bref, un véritable inventaire à la Prévert. Depuis ce matin, le gouvernement présente en Conseil des ministres l'un des principaux chantiers du quinquennat, censé marquer un vrai tournant écologique, ainsi que l'a vanté elle-même la secrétaire d'État, Brune Poirson. Ce projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, sur lequel planche le gouvernement depuis octobre 2017, doit permettre au fond de sortir de ce triptyque infernal, s'il n'est pas assorti d'une pratique responsable et vertueuse, produire, utiliser et jeter. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Alors ce texte qui arrive ce matin sur la table du Conseil des ministres, avant d'entamer son examen parlementaire, ce sera en septembre prochain, et l'aboutissement de 2 années donc de concertation menée par la secrétaire d'État à la transition écologique avec les acteurs de toutes les filières. Un projet de loi que Brune Poirson veut équilibré et ambitieux, qui prévoit notamment, Rosalie, la destruction des invendus non alimentaires.
Oui, un gaspillage scandaleux, voilà ce à quoi l'exécutif veut mettre fin chaque année. Plus de 650 millions d'euros de produits neufs et non périssables sont tout simplement jetés ou détruits, et c'est totalement aberrant pour la secrétaire d'État à la transition écologique Brune Poirson.
Pensez par exemple au secteur de la mode, au secteur textile. Le textile dans le monde, c'est la deuxième industrie la plus polluante. À elle seule, l'industrie textile est responsable d'un quart d'utilisation des pesticides dans le monde, un quart. Et il y a des collections printemps-été, automne-hiver, que sais-je, qui quand elles ne trouvent pas acheteur, un t-shirt qui n'aurait pas plu, eh bien il est détruit. Le gâchis pour la planète est absolument intolérable.
Vouloir y mettre fin, c'est très bien, souligne le député Mathieu Orphelin, mais pour celui qui a quitté La République En Marche en dénonçant un manque d'ambition en matière écologique, il manque encore une fois quelque chose.
Pour l'instant, effectivement, il manque la sanction. Et je crois que c'est important qu'on ait la possibilité pour l'État de sanctionner des acteurs qui ne joueraient pas le jeu. Parce que les impacts environnementaux sont énormes, en particulier sur la consommation d'eau. Pour fabriquer un jean, aujourd'hui, il faut l'équivalent en eau de pratiquement 300 douches. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un impact et des impacts environnementaux très très forts. Donc faisons tout pour rendre ça le plus efficace possible.
Le député déposera un amendement en ce sens dès l'examen du texte au Parlement fin septembre. Examen qui sera aussi l'occasion d'obtenir des détails sur la mise en œuvre de cette mesure. Parce que si le projet de loi interdit effectivement la destruction des produits non alimentaires neufs, il ne précise pas s'ils devront être réemployés ou recyclés.
Merci Rosalie Lafarge. Et le jour même de la présentation de ce texte phare du quinquennat sur le volet environnemental, voilà une affaire qui risque de gâcher quelque peu cette journée qui s'annonçait pourtant sous les meilleurs auspices pour le ministre de l'écologie. Selon le site d'information Mediapart, entre 2017 et 2018, François de Rugy, alors président de l'Assemblée nationale, ainsi que son épouse, auraient multiplié les dîners privés, fastueux, dans les murs de l'hôtel de Lassay, la résidence du président du Palais Bourbon. Documents, photos et témoignages à l'appui, le journal en ligne a recensé au total une dizaine de ces dîners, qui autour de tables délicieusement garnies de homards et autres grands crus issus des caves de l'Assemblée rassemblaient à chaque fois entre 10 et 30 invités appartenant pour l'essentiel au cercle relationnel et amical de son épouse Séverine de Rugy, journaliste au magazine Gala. Les précisions de Frédéric Seyss.
Mediapart relève une dizaine de dîners sur 9 mois entre octobre 2017 et juin 2018. À cette époque, François de Rugy est donc président de l'Assemblée nationale. Il reçoit à sa table avec des grands crus dans des agapes somptueuses entre amis, écrit Mediapart. Mediapart. Le journal publie aussi la photo de Omar Géant, servi lors d'un de ses dîners en décembre 2017. Tout cela payé sur fonds publics. Qui était autour de la table? Des amis du couple de Rugy, dont des personnalités du monde de la communication, de la culture, du journalisme et de la finance, selon Mediapart. L'ancien président de la Chambre basse, devenu depuis ministre de la Transition écologique, met lui l'accent sur les personnalités universitaires et scientifiques qu'il a conviées. Cela afin de ne pas se couper de la société, a-t-il expliqué ce matin sur France Inter.
C'est normal, moi je l'assume totalement. On reproche souvent aux hommes et aux femmes politiques d'être coupés, d'être que dans leur monde politique, d'être dans une forme de bulle politique. Eh bien moi j'ai toujours souhaité que l'Assemblée nationale soit ouverte. Je considère que ça fait partie de mon travail que d'échanger, encore une fois, y compris dans le cadre de dîner, parce que vous savez que les journées elles font 24 heures, il faut quand même dormir un peu. Donc du matin jusqu'au soir, en effet, eh bien nous avons différentes formes de travail.
L'entourage de François de Rugy fait aussi valoir une baisse de 13% des frais de réception à l'hôtel de Lassay. Le coût de ces dîners est donc prévu dans le budget de l'Assemblée nationale, mais il relève d'une zone grise. À partir de quand considère-t-on que certains invités sont utiles à la fonction de président de l'Assemblée nationale? À partir de quand relève-t-il uniquement de l'agrément personnel? L'un des exemples cités par Mediapart semble clairement appartenir à la seconde catégorie. L'on y voit un dîner organisé par la présidence de l'Assemblée pour la Saint-Valentin avec des pétales de rose sur la table du couple de Rugy.
À l'issue d'une campagne interne acharnée, laquelle aura d'ailleurs assez largement mis à mal la culture, jusqu'alors très polissée dans les rangs du jeune parti présidentiel, l'heure du choix a enfin sonné pour La République En Marche. Ce soir, au plus tard, elle devra avoir désigné son champion dans la perspective des prochaines municipales à Paris, après que les commissaires du parti ont entendu hier les trois prétendants encore en lice. La Commission nationale d'investiture rendra son verdict dans la soirée, lequel verdict devra ensuite être entériné par un bureau exécutif. L'occasion aussi de rappeler que pour départager donc les candidats à l'investiture, la direction de LREM avait refusé d'organiser une consultation militante comme d'autres socialistes ou républicains ont pu le faire par le passé. Or, quand certains y trouveront peut-être une manière de faire de la politique autrement, ainsi que l'avait promis Emmanuel Macron à l'origine de la création de son mouvement, d'autres en revanche y verront davantage le signe d'un fonctionnement très vertical au sein du parti présidentiel. À ce titre, le chef de l'État semble d'ailleurs vouloir surveiller de près le choix des candidats pour les municipales, en particulier dans les grandes villes, à Paris donc, mais aussi à Marseille et Lyon. Le cas de la métropole rhône-alpine est d'ailleurs assez symbolique, car avec Gérard Collomb, c'est en réalité la seule et unique ville de l'Hexagone où La République En Marche pourrait présenter un candidat sortant, et pour cause, puisque le parti d'Emmanuel Macron n'existait pas lors des dernières municipales, et c'est là que se dessine au fond tout l'enjeu de ces élections, permettre au parti du président de s'implanter localement dans le paysage politique. De son côté, le Rassemblement national réunit jusqu'à ce soir sa commission nationale d'investiture qui décidera d'une nouvelle vague de candidats aux élections municipales de mars 2020. Quant au parti Les Républicains, sa commission nationale d'investiture s'est réunie hier soir. Elle doit investir une vingtaine de candidats, mais pas ceux de Nice, Marseille, Toulouse ou Paris. S'agissant de ces villes dites à conflit, le parti de la droite attendra l'automne et l'élection en octobre de son nouveau président pour décider des investitures. Si pour beaucoup de Libyens, les décideurs occidentaux ont une grande part de responsabilité dans le chaos qui règne dans le pays, depuis qu'à la chute du régime Kadhafi, la population s'est retrouvée non seulement divisée en deux blocs, mais aussi déchirée par une guerre interminable, les révélations ce matin du New York Times risquent bien d'alimenter un peu plus encore ce ressentiment. Selon le quotidien, des missiles américains achetés par la France ont été retrouvés le mois dernier en Libye, aux mains des forces du général Haftar, lequel a lancé en avril dernier une offensive contre le gouvernement d'Union nationale, le seul reconnu comme légitime aujourd'hui par la communauté internationale. Des révélations évidemment embarrassantes pour Paris, régulièrement accusé de cautionner au moins tacitement l'offensive militaire du maréchal Haftar. Mais plus encore, ces informations posent une question. Comment des armes françaises ont-elles pu se retrouver au cœur du chaos libyen, alors même que la Libye est aujourd'hui soumise par l'ONU à un embargo sur les armes? Les explications de Marwaman.
Ces quatre missiles anti-chars ont été retrouvés après un raid éclair mené il y a deux semaines par les forces loyalistes sur un camp militaire au sud de Tripoli. C'est en fuyant précipitamment leur base arrière que les soldats du maréchal Haftar ont laissé derrière eux un véritable arsenal. Mais la prise de guerre la plus retentissante, ce sont ces quatre missiles Javelin, des armes américaines que Washington ne vend qu'à ses alliés les plus proches. Or, selon les révélations du quotidien le New York Times, ces missiles ont été vendus à la France. Le Pentagone précise même qu'ils font partie d'un lot de 250 missiles que Paris a acheté en 2010. Le ministère français des Armées a confirmé ce matin l'information, mais rajoute que leur utilisation devait permettre de protéger les troupes françaises déployées en Libye sur des opérations de contre-terrorisme. S'agissant des 4 missiles en question, la France affirme qu'ils seraient hors d'usage et qu'ils devaient être prochainement détruits. Mais la présence de ces armes en Libye, aux mains des forces du maréchal Haftar, est embarrassante pour Paris, qui a toujours nié être impliqué dans le conflit libyen.
En Allemagne, un demandeur d'asile irakien débouté a été condamné ce matin à la prison à perpétuité. Ali Bachar, 22 ans, a été reconnu coupable d'avoir violé et tué une adolescente de 14 ans. C'était le 23 mai 2018. La cour qui a suivi les réquisitions du parquet l'a également privé de la possibilité de demander une libération conditionnelle au bout de 15 ans en raison de la gravité particulière de son crime. Une affaire qui avait suscité à l'époque une immense émotion en Allemagne, en plein débat sur l'accueil des réfugiés, de quoi nourrir assez largement le discours anti migrants. Ce matin d'ailleurs, un député du parti d'extrême droite AFD qui avait cherché à récupérer ce fait divers était présent au tribunal à l'énoncé du verdict. Les précisions à Berlin du correspondant de RFI pour France Culture, Pascal Thibault.
Pour l'extrême droite, Angela Merkel aurait dû être sur le banc des accusés. Comme dans d'autres cas de viol contre de jeunes filles par des migrants, le Parti Alternatif pour l'Allemagne et d'autres considèrent que l'arrivée massive de réfugiés en 2015 est la cause de tous les maux. Le viol et le meurtre de la jeune Susanna en mai 2018 avaient choqué comme d'autres cas l'Allemagne. Le suspect Ali Bachar, un Irakien de 22 ans, était arrivé en 2015 et avait vu sa demande d'asile retoquée. Après le meurtre, il avait pris la fuite pour son pays d'origine avec sa famille avant d'être ramené quelques jours plus tard par la police allemande. Ali Bachar a reconnu le meurtre de Susanna, mais nier l'avoir violée, évoquant des relations sexuelles consenties. Le tribunal de Wiesbaden n'a pas retenu cette thèse et a jugé ses excuses présentées à deux reprises à la famille peu crédibles. Les juges parlent d'un acte commis de sang-froid. Une analyse psychiatrique décrit un jeune homme qui considère les femmes comme des salopes, je cite. Ali Bachar a été condamné à la perpétuité. Il ne pourra pas demander de libération conditionnelle au bout de 15 ans en raison de la gravité particulière de son crime. Le jeune homme est par ailleurs jugé dans un autre procès en cours pour le viol d'une enfant de 11 ans commis avec un complice.
Angela Merkel a été prise aujourd'hui d'une troisième crise de tremblement en moins d'un mois alors qu'elle recevait à Berlin le premier ministre finlandais. La chancelière, âgée de 64 ans, s'était déjà mise à trembler en public lors de la réception du nouveau président ukrainien. C'était le 18 juin dernier, puis lors d'une cérémonie organisée 10 jours plus tard pour le départ de la ministre de la Justice élue au Parlement européen. En pleine guerre larvée entre Washington et l'Iran, les États-Unis ont annoncé vouloir former une coalition pour garantir la liberté de navigation dans le Golfe. Il faut dire que la tension dans cette zone stratégique par laquelle transite près d'un tiers du pétrole brut mondial acheminé par voie maritime a culminé au cours des dernières semaines. Les États-Unis ont notamment accusé l'Iran d'y avoir lancé plusieurs attaques contre des pétroliers, ce que la République islamique a toujours nié. En revanche, Téhéran a bien admis le mois dernier avoir détruit un drone américain près du détroit d'Ormuz. Et puis, j'ajoute que le Conseil des gouverneurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, tient aujourd'hui à Vienne, à la demande des États-Unis, une réunion spéciale consacrée à l'Iran, après que Téhéran a dépassé le seuil limite d'enrichissement d'uranium qui lui était imposé au terme de l'accord de 2015 sur son programme nucléaire. En Irak, parce que des cellules djihadistes dormantes continuent de mener des attaques meurtrières, l'armée a lancé dimanche dernier une nouvelle opération pour sécuriser le vaste désert de l'ouest du pays, frontalier avec la Syrie. Daesh y est en effet toujours présent, même si le pays s'est pourtant déclaré vainqueur de l'EI fin 2017, c'était quelques mois après avoir chassé les terroristes de leur siège installé à Mossoul. C'est d'ailleurs aujourd'hui le deuxième anniversaire de la libération de la capitale de la province de Ninive, une ville dont le cœur reste pour l'essentiel encore aujourd'hui un champ de ruines abandonné par le gouvernement. Autant dire que la reconstruction risque de prendre du temps. Les précisions de Capucine Jaffé.
Depuis la fin de la guerre, Mossoul est fracturée en deux. La partie ouest où se trouve la vieille ville est presque laissée à l'abandon. Lazar Elundu coordonne le programme de reconstruction de l'UNESCO.
Que serait Paris sans sa tour Eiffel? Eh bien, que serait Mossoul sans son minaret Al-Hadba ou sa mosquée Al-Nouri ou ses églises? C'est ça qui est important. Donc le travail est de participer à la reconstruction par la dimension humaine qui est importante, qui est en fait la chose la plus importante. Il faut reconstruire reconstruire les esprits.
Mais pour reconstruire, il faut déminer. Pièges laissés par les djihadistes, restes des bombes larguées par la coalition et même des vestes explosives. Sécuriser la ville est aujourd'hui une priorité pour James Matthew de la Croix-Rouge en Irak.
La complexité et la densité de contamination par explosifs, c'est dans une ampleur sans précédent. Et on voit que l'existence de mines et des restes explosifs de guerre, c'est une très importante raison qui limite les retours des familles. Il y a beaucoup de travail à faire pour pouvoir laisser la population civile de l'Irak de continuer avec leur vie.
Alors que le déminage pourrait prendre encore 10 ans, des centaines de milliers de personnes ne peuvent toujours pas rentrer à Mossoul.
On termine avec un mot de météo. Le temps sera bien ensoleillé cet après-midi sur l'ensemble du territoire. Seules quelques averses localement orageuses seront à craindre sur les Alpes du Sud et en Corse. Quant aux températures, elles afficheront entre 22 et 34 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Demergue. Et à 18h, je vous retrouve pour le prochain journal de la rédaction.